Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yupi Surianto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, lundi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux suivi du commentaire aujourd'hui dans l'histoire et la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine de musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi demande de défendre la souveraineté dans les eaux de Natuna. La ministre des Affaires étrangères a dit que l'événement à Natuna est une forme de consistance de l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères souligne qu'il n'y a pas de problème des vols zones de l'Indonésie. La ministre Susi a dit le vol de poissons endommage de bonnes relations. Indonésie et Hong Kong ont convenu de résoudre le cas de passeport des citoyens indonésiens. Et enfin, l'Union européenne a lancé un film documentaire pour protéger l'éléphant. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo demande de défendre la souveraineté nationale dans toutes les régions de l'Indonésie, y compris les eaux de Natuna, les îles de Riau en ce qui concerne les revendications de la Chine récemment. Le personnel spécial du président, Johan Budi, a dit lundi à Jakarta que le président a ordonné de défendre la souveraineté de territoriale de l'Indonésie qui a été développée depuis l'époque de l'indépendance. Le président Joko Widodo a invité le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, à discuter de la mer de Chine méridionale. Le président veut qu'il ait l'application de la souveraineté sur tout le territoire de la République d'Indonésie sans réduire les bonnes relations. Selon Johan Budi, la diplomatie positive sera toujours appliquée avec la Chine, mais la souveraineté du pays doit être maintenue. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que l'action menée par la marine pour arrêter le navire et l'équipage du navire chinois dans les eaux de Natuna le vendredi 27 juin était une forme de consistance de l'application de la loi dans la zone économique exclusive ZEE de l'Indonésie. Cela a été dit par Retno Marsudi après avoir assisté à une audience avec la Commission du Parlement d'Indonésie à Jakarta lundi. L'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive d'Indonésie le 17 juin est l'événement pour la troisième fois après le navire de TNI a arrêté le navire et l'équipage chinois dans les eaux de Natuna en mars et mai 2016. Si ce problème se produit à nouveau, l'Indonésie fera la même chose dans la zone économique exclusive indonésienne et conformément au droit international. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, souligne que l'Indonésie et la Chine n'ont pas de problème de chevauchement des zones dans les eaux de Natuna. Ainsi, la protestation chinoise sur les actions de la marine qui arrête les navires dans la région de la Chine est sans fondement. Cela a été déclaré par la ministre après avoir assisté à l'audience avec la commission du Parlement pour répondre à la protestation du gouvernement chinois contre l'arrestation du navire et sept membres d'équipage de pêche illégale chinoise dans les eaux de la zone économique exclusive de Natuna le vendredi 17 juin. Selon Mme Retno Marsudi, l'Indonésie n'a pas de réclamation qui se chevauche dans la mer territoriale, y compris avec la Chine. L'Indonésie a seulement des revendications du chevauchement sur le plateau continental et la zone économique exclusive avec le Vietnam et la Malaisie. Dans la réunion avec le Parlement, Mme Retno Marsudi a dit fermement que la mesure prise par la marine le 17 juin était la consistance d'Indonésie à appliquer la loi sur le territoire du pays en vertu du droit international, une clause 1982. La ministre indonésienne de la mer et de la pêche, Susi Pujastuti, a déclaré que la pêche illégale effectuée par les pays voisins pourrait endommager les bonnes relations qui existaient déjà. Susi Pujastuti, après l'iftar à la résidence officielle du président du Parlement, Ade Komarudin, a déclaré lundi que l'Indonésie devrait maintenir de bonnes relations avec la Chine, mais la pêche illégale n'est pas incluse dans les bonnes relations entre les pays. Selon elle, les mesures prises sur le vol de poissons sont l'application de la loi. C'est ce qu'a affirmé la ministre Susi Pujastuti répondant aux protestations du gouvernement de la République populaire de Chine sur la mesure faite par la marine nationale indonésienne au navire de la Chine dans la zone économique exclusive ZEE. L'Indonésie et le gouvernement de la région autonome spéciale de Hong Kong ont convenu de renforcer la coopération d'immigration, notamment la solution du cas de correction des données de passeport des citoyens indonésiens qui deviennent des travailleurs migrants dans cette région. Cet accord a été transmis dans une réunion entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasona Lawli, avec le chef de la direction par intérim de Hong Kong, John Tsang, et le secrétaire du bureau de la sécurité de Hong Kong, Lai Teka, récemment. Selon l'information du consul d'immigration du consulat général d'Indonésie à Hong Kong, cité par Antara Langdi, le consulat général d'Indonésie à Hong Kong a fait la justification des données de passeport des travailleurs migrants en conformité avec les données du système d'information de la gestion de l'immigration. L'application du système de la gestion de l'immigration dans les représentants indonésiens, y compris à Hong Kong, vise à améliorer les caractéristiques de sécurité des données du passeport d'Indonésie. La délégation de l'Union européenne à l'Indonésie a lancé un court film documentaire sur la forêt et l'éléphant en Indonésie et a souligné l'importance de la protection des forêts et des éléphants. La délégation de l'Union européenne à l'Indonésie en 2015 a adopté deux éléphants de l'écosystème Leuser, la province d'Aceh, en Indonésie, comme une mascotte de l'Union européenne qui symbolise l'engagement de l'Union européenne pour la biodiversité, la conservation et le mouvement contre le changement climatique. Pour attirer l'attention du public sur l'importance des éléphants et des forêts de l'Indonésie, l'Union européenne a fait un court-métrage documentaire qui favorise la protection des éléphants. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Gurang, lors de lancement le dimanche à Jakarta. Il espère que le film mettant en vedette l'acteur indonésien Nicolas Saputra va inspirer les gens à protéger les éléphants. Comme rapporté l'ambassade de l'Union européenne à Jakarta le dimanche, l'Union européenne a soutenu le gouvernement indonésien à protéger les zones forestières à Aceh et Sumatra du Nord à travers un certain nombre de projets d'une valeur totale de plus de 50 millions d'euros. L'un des efforts de l'Union européenne est le programme de développement Leuser. Serge Tor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la journée des activités de l'agriculture. Précisément, ce jour, mardi le 21 juin 2016, le peuple indonésien commémore la journée des activités de l'agriculture. Il y a deux raisons pour lesquelles le 21 juin est défini comme la journée des activités de l'agriculture. Tout d'abord, en termes de l'astronomie, à cette date, le soleil qui donne la vie aux plantes, aux animaux et aux humains est sur le tropique du Cancer de 23,5 degrés de latitude nord. À ce moment, le processus initial du cycle de la production de plantes se termine et les préparatifs pour la prochaine production seront commencés et les agriculteurs seraient reconnaissants pour la récolte. La deuxième raison, vous du système de partage de la saison traditionnelle appelé institution proa, à savoir un système de partage de saison qui est complètement décrit et couvre la pluie, le vent, les insectes, les maladies de la volée, etc. Donc, le 21 juin est considéré comme le début de la saison et un bon moment pour la replantation. La question est de savoir, est-ce que nous avons atteint déjà le niveau d'une société juste et prospère? En particulier l'agriculture, si nous regardons maintenant, beaucoup d'agriculteurs sont utilisés l'objet de spéculation. Les développeurs achètent généralement des terres à bas prix avec une superficie de milliers d'hectares à être vendues à des prix élevés et puis construisent les logements, les bureaux, les centres commerciaux, etc. La terre qui avait été prévue pour la terre agricole est maintenant transformée en ornement de divers bâtiments. Puis, il y a encore les importations de cultures étrangères affectant les prix dans le pays. Initialement, cela est causé par ces produits agricoles en Indonésie qui ne répondent pas aux besoins alimentaires nationaux. En outre, il doit admettre qu'avec les avantages de la technologie et des infrastructures, les résultats de la récolte d'importation est souvent mieux que les produits nationaux, même le prix est concurrentiel. Ceci est un problème pour les agriculteurs en Indonésie, car elle affectera grandement le prix de vente des plantes locales. Actuellement, la technologie agricole en Indonésie a également commencé à se développer, mais il y a encore des symptômes. La régénération des agriculteurs excellents ne fonctionne pas correctement. Si nous regardons qu'il y a le prestige chez les jeunes, si elles travaillent comme agriculteurs, ils sont plus intéressés à l'industrie qui offre un myriade de confort. Les gouvernements locaux devraient être à la pointe d'intervenir pour sauver la terre et le secteur agricole, y compris créer une nouvelle génération d'agriculteurs, parce que la situation commençait à inquiéter. Au cours du mois de Ramadan, on avoue la volatilité des prix des denrées alimentaires qui sont plus chers et le prix de la viande de bovin est également élevé, plus élevé au-dessous du prix de base. Ce qui est arrivé aujourd'hui est probablement dû au jeu des prix par la mafia des prix, qui aime gagner l'avantage saisonnier. Toutefois, la volatilité des prix des denrées alimentaires, qui est également les produits agricoles, a été également affectée par la situation de l'agriculture en Indonésie, qui est moins favorable comme la réduction des terres agricoles, la baisse de l'intérêt pour devenir un bon agriculteur jusqu'aux inondations des produits importés. Il est temps, dans la journée des activités de l'agriculture, le gouvernement doit garantir la durabilité de l'agriculture et le bien-être des agriculteurs et des éleveurs, suivi de l'augmentation de la technologie, de sorte que l'Indonésie n'a pas à se soucier de la flambée des prix. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 juin 1970, Insinyur Soekarno est décédé. Soekarno est le premier président de la République d'Indonésie. Il a proclamé l'indépendance le 17 août 1945 avec Mohammad Hatta, le premier vice-président. Sukarno est mort à Jakarta le 20 juin 1970 en raison d'une maladie. Il a joué un rôle important pour l'indépendance de l'Indonésie à partir du colonialisme néerlandais. Depuis la jeunesse, Sukarno a été actif dans la lutte politique contre le colonialisme néerlandais. En raison de ses activités politiques, il a été emprisonné par le gouvernement néerlandais. Il a créé le concept de la base de l'État indonésien et nommé Pancasila. Le 21 juin 1981, Mustafa Shamran est mort dans la guerre Iran-Irak dans la province de Khuzestan. Il est né en 1932 à Téhéran. Il obtient un diplôme de l'Université de Téhéran. Il a ensuite obtenu une bourse pour continuer leurs études à l'Université Berkeley, les États-Unis, et devenu le professeur dans cette université. À la fin des années 1970 et 1980, il devient l'un des principaux acteurs du mouvement révolutionnaire islamique au Moyen-Orient. En mars 1980, il est élu député au Parlement iranien en tant que député de Téhéran. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le satellite BRISAT est lancé avec succès ». Le satellite BRI ou Banque Rakyat Indonesia a été lancé le samedi 18 juin 2016 après-midi, heure de Guyana. Selon BRI, son satellite sera également utilisé par le ministère de l'Éducation et de la Culture, le ministère des Finances, le ministère des Affaires Maritimes et de la Pêche et le ministère de la Défense. BRISAT et ESOSTAR 18 a apporté le fusée Ariane 5 appartenant Ariane Espace. Le président directeur de BRI, M. Asmawi Syam, cité par Berita 1, a déclaré que le lancement de satellites de 3,4 milliards de rupiah devenait une nouvelle source dans l'histoire du système bancaire indonésien et aussi le monde, parce que la BRI est la seule banque ou institution financière dans le monde qui a son propre satellite. Le satellite BRISAT, à un prix plus de 3 trillions de rupiah, possède 45 transpondeurs. Jusqu'à présent, pour servir l'accès à la communication, 1610 branches, la banque a dû embaucher jusqu'à 23 transpondeurs de l'opérateur satellite dans l'espace. Le satellite est capable de survivre jusqu'à 17 ans. Le vice-président Yusuf Kalla a félicité PT Bank Rakyat Indonesia TBK sur le lancement du satellite BRISAT. Lors d'une téléconférence avec le directeur de la BRI, Asmawi Syam, le dimanche, a déclaré que le grand pays est développé a besoin de l'innovation et la technologie, parce que l'innovation et la technologie fait l'Indonésie sera meilleure, rapide et moins chère. L'expert en sécurité cyber, M. Pratama Persada, a dit que le lancement du satellite BRI est une bonne étape dans la guerre de l'information actuellement. Le gouvernement devrait également avoir son propre satellite pour maintenir la souveraineté. Le gouvernement doit avoir le courage de construire leur propre satellite parce que son avantage sera plus grand par rapport au coût qui doit être payé. Il espère que dans le long terme, le satellite BRISAT non seulement pour les entreprises, mais aussi pour soutenir les programmes gouvernementaux, surtout de maintenir la sécurité et la souveraineté du pays. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président Joko Widodo demande de défendre la souveraineté nationale dans toutes les régions de l'Indonésie, y compris les eaux de Natuna, les îles de Riau, en ce qui concerne les revendications de la Chine récemment. Le personnel spécial du président, Johan Budi, a dit lundi à Jakarta que le président a ordonné de défendre la souveraineté de territoriale de l'Indonésie qui a été développée depuis l'époque de l'indépendance. Le président Joko Widodo a invité le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, à discuter de la mer de Chine méridionale. Le président veut qu'il ait l'application de la souveraineté sur tout le territoire de la République d'Indonésie sans réduire les bonnes relations. Selon Johan Budi, la diplomatie positive sera toujours appliquée avec la Chine, mais la souveraineté du pays doit être maintenue. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que l'action menée par la marine pour arrêter le navire et l'équipage du navire chinois dans les eaux de Natuna le vendredi 27 juin était une forme de consistance de l'application de la loi dans la zone économique exclusive ZEE de l'Indonésie. Cela a été dit par Retno Marsudi après avoir assisté à une audience avec la commission du Parlement d'Indonésie à Jakarta lundi. L'arrestation des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive d'Indonésie le 17 juin est l'événement pour la troisième fois après le navire de TNI a arrêté le navire et l'équipage chinois dans les eaux de Natuna en mars et mai 2016. Si ce problème se produit à nouveau, l'Indonésie fera la même chose dans la zone économique exclusive indonésienne et conformément au droit international. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, souligne que l'Indonésie et la Chine n'ont pas de problème de chevauchement des zones dans les eaux de Natuna. Ainsi, la protestation chinoise sur les actions de la marine qui arrête les navires dans la région de la Chine et sans fondement. Cela a été déclaré par la ministre après avoir assisté à l'audience avec la commission du Parlement pour répondre à la protestation du gouvernement chinois contre l'arrestation du navire et sept membres d'équipage de pêche illégale chinoise dans les eaux de la zone économique exclusive de Natuna le vendredi 17 juin. Selon Mme Retno Marsudi, l'Indonésie n'a pas de réclamation qui se chevauche dans la mer territoriale, y compris avec la Chine. L'Indonésie a seulement des revendications du chevauchement sur le plateau continental et la zone économique exclusive avec le Vietnam et la Malaisie. Dans la réunion avec le Parlement, Mme Retno Marsudi a dit fermement que la mesure prise par la marine le 17 juin était la consistance d'Indonésie à appliquer la loi sur le territoire du pays en vertu du droit international, une clause 1982. La ministre indonésienne de la mer et de la pêche, Susi Pujastuti, a déclaré que la pêche illégale effectuée par les pays voisins pourrait endommager les bonnes relations qui existaient déjà. Susi Pujastuti, après l'iftar à la résidence officielle du président du Parlement, Ade Komarudin, a déclaré lundi que l'Indonésie devrait maintenir de bonnes relations avec la Chine, mais la pêche illégale n'est pas incluse dans les bonnes relations entre les pays. Selon elle, les mesures prises sur le vol de poissons sont l'application de la loi. C'est ce qu'a affirmé la ministre Susi Pujastuti répondant aux protestations du gouvernement de la République populaire de Chine sur la mesure faite par la marine nationale indonésienne au navire de la Chine dans la zone économique exclusive ZEE. L'Indonésie et le gouvernement de la région autonome spéciale de Hong Kong ont convenu de renforcer la coopération d'immigration, notamment la solution du cas de correction des données de passeport des citoyens indonésiens qui deviennent des travailleurs migrants dans cette région. Cet accord a été transmis dans une réunion entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpe Marsudi, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasona Lawli, avec le chef de la direction par intérim de Hong Kong, John Tsang, et le secrétaire du bureau de la sécurité de Hong Kong, Lai Teka, récemment. Selon l'information du consul d'immigration du consulat général d'Indonésie à Hong Kong, cité par Antara Langdi, le consulat général d'Indonésie à Hong Kong a fait la justification des données de passeport des travailleurs migrants en conformité avec les données du système d'information de la gestion de l'immigration. L'application du système de la gestion de l'immigration dans les représentants indonésiens, y compris à Hong Kong, vise à améliorer les caractéristiques de sécurité des données du passeport d'Indonésie. La délégation de l'Union européenne à l'Indonésie a lancé un court film documentaire sur la forêt et l'éléphant en Indonésie et a souligné l'importance de la protection des forêts et des éléphants. La délégation de l'Union européenne à l'Indonésie en 2015 a adopté deux éléphants de l'écosystème Leuser, la province d'Aceh, en Indonésie, comme une mascotte de l'Union européenne qui symbolise l'engagement de l'Union européenne pour la biodiversité, la conservation et le mouvement contre le changement climatique. Pour attirer l'attention du public sur l'importance des éléphants et des forêts de l'Indonésie, l'Union européenne a fait un court-métrage documentaire qui favorise la protection des éléphants. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Gurin, lors de lancement le dimanche à Jakarta. Il espère que le film mettant en vedette l'acteur indonésien Nicolas Saputra va inspirer les gens à protéger les éléphants. Comme rapporté l'ambassade de l'Union européenne à Jakarta le dimanche, l'Union européenne a soutenu le gouvernement indonésien à protéger les zones forestières à Aceh et Sumatra du Nord à travers un certain nombre de projets d'une valeur totale de plus de 50 millions d'euros. L'un des efforts de l'Union européenne est le programme de développement Leuser. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des neuf phrases qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, la Voix de l'Indonésie dans le monde entier, voici le magazine de Persona Indonesia, ou magazine de la culture, édition de mardi. Aujourd'hui, nous vous invitons dans le voyage religieux en province de Yogyakarta. Alors, restez avec nous à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie. Et vous pouvez écouter notre émission non seulement par le en courte sur 9525 kHz ou bien avec le streaming www.voi.co.id. Chers fidèles amis, dans le mois de Ramadan, la mosquée est pleine et beaucoup de pèlerins. Diverses activités ont eu lieu la culte. Non seulement cela, beaucoup de gens maintenant visitent aussi certaines mosquées uniques durant le Ramadan. Les mosquées deviennent un des lieux attractifs pour le tourisme religieux. En plus de voyages pour visiter les mosquées, les touristes peuvent également renforcer la voie. Sur la question de charme indonésien pour cette fois-ci, nous vous invitons le voyage religieux à Yogyakarta ou le palais Yogyakarta. Comme un empire islamique qui a une longue histoire, Yogyakarta a quelques vestiges de la mosquée. Une des mosquées assez unique est le masjid de palais de Sokotunggal. Il situe dans le sultanat de Yogyakarta à la rue de Taman en numéro 318 du district Kraton Yogyakarta, précisément en face de l'entrée du site touristique de Taman Sari. Chers fidèles amis, comme le nom Soko Tunggal, c'est-à-dire un seul pilier, la mosquée n'a qu'un seul pilier ou le pilier principal. Habituellement, le concept de la construction de Java est supporté par au moins 4 tiges piliers. Voilà le caractère unique de cette mosquée, un seul pilier. Selon l'inscription imprimée sur le mur, cette masjid Soko Tunggal a installé au mercredi 28 février par le roi de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Le désigné de cette mosquée est Raden Ngabehi Mintobudoyo, qui est le dernier architecte du palais de Yogyakarta. Le bâtiment se trouve sur la superficie de 900 mètres carrés où, à cet site, on a été enterré 10 combattants qui sont morts au cours de l'offensive générale pendant la guerre indépendante au 11 mars 1949. D'autre côté, le sultan de Yogyakarta veut que la mosquée soit également devenu un monument au zéro. L'architecture de la mosquée contient beaucoup de sens. Si vous êtes assis dans la salle à la mosquée, vous verrez 4 piliers en bois bentung, où côte de poêle et un bâton de pilier de sorte que tous sont élevés à 5 pièces. Il est un symbole de Pancasila, 5 principes de la nation. Le pilier est un symbole du premier principe, le Dieu Tout-Puissant. Cependant, rafter le faisceau qui converge comme le rayon d'un parapluie ou appelé pignon est un symbole de l'autorité de l'État de protéger sa population. Le pilier en bois est d'origine du bois de teck à la région de Cepu, mesurant 50 cm voire 50 cm. Alors que le socle de pierre ou de poteau tampon vient de Petilasan, c'est-à-dire un assis de Sultan Agung Hadjokusumo, le grand sultan de Mataram, qui autrefois est resté dans la région de Pleret Bantul. Le masjid Soko Guru est également décoré avec des variétés de belles sculptures. Ces sculptures contiennent également le large éventail de sens et certains buts. Par exemple, la sculpture de Prabha, ce qui signifie la terre, le sol, la dignité. La sculpture Saton signifie le sol ou Sawiji. La gravure signifie le rayon lumineux du soleil. Tracapan signifie panggah, c'est-à-dire le stoïcien et le sélien. Du point de vue de la construction de mosquée Soko Tunggal est aussi pleine de sang. Dans la construction de la mosquée, il y a une section de padel en forme d'épaule. Cela symbolise que les gens pris dans cette mosquée deviendront une personne plus forte face aux tentations du diable venant de 4 coins et 5 points. Chers amis, La Voix de l'Indonésie, c'était le magazine de Pesona Indonesia, édition de mardi, ayant le titre La mosquée de Soko Tunggal au Palais de Yogyakarta. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici apprendre l'indonésien intitulé Bambou à Sobua ou en français faire de la soupe de fruits. D'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet aujourd'hui. Membuat. Membuat. En français, faire. Sop bois. Sop bois. En français, soupe de fruits. Pulang kantor. Pulang kantor. En français, retourner au bureau. Écoute, écoute. En français, suivre. Membeli, membeli. En français, acheter. Besok, besok. En français, demain. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. En français, iftar ensemble. Mudah. Mudah, en français, facile. Segar, segar, en français, frais. Bermacam-macam, bermacam-macam, en français, divers. Melon, melon, en français, melon. Alpukat, alpukat, en français, avocat. Bois, bois. En français, fruit. Manga, manga. En français, mangue. Nanka, nanka. En français, jacquier. Strawberry, strawberry. En français, fraise. Bois, naga. Bois naga, en français, fruit du dragon. Dipotong, dipotong, en français, coupé. Dadu, dadu, en français, coupe. Bulat, bulat, en français, rond. Air, air, en français, les eaux. Susu, susu, en français, le lait. Es batu, en français, coupe de glace. Chers amis, maintenant je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre membuat sop buah ou en français, faire de la soupe de fruits. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Et cette conversation est entre Mary A et Nita B au bureau. A. Pulang kantor, saya mau ke supermarket. Apakah kamu mau ikut? Pulang kantor, saya mau ke supermarket. Apakah kamu mau ikut? En français, retournez du bureau, je vais aller au supermarché. Voulez-vous me suivre? B. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? En français, que voulez-vous acheter? A. Besok ada buka puasa bersama. Besok ada buka puasa bersama. En français, demain il y aura l'iftar ensemble. Saya mau membuat sop buah saja. Saya mau membuat sop buah saja. Mudah dan segar. Mudah dan segar. En français, je vais faire la soupe de fruits. Facile et frais. B. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? En français, comment le moyen de la faire? A. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. En français, tout d'abord, nous préparons les ingrédients. Bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah. Bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah. En français, les matériaux nécessaires sont un assortiment de fruits. Misalnya, melon, alpukat, mangga. En français, comme par exemple, le melon, l'alvoca, la mangue, nanka. En français, le jacquier, strawberry. En français, le fraîche, buah naga. En français, le fruit du dragon. B. Kemudian, buah-buah itu dipotong-potong. Kemudian, buah-buah itu dipotong-potong. En français, ensuite, les fruits sont coupés. A. Ya, dipotong berbentuk dadu atau bulat. Ya, buah dipotong berbentuk dadu atau bulat. En français, oui, les fruits sont coupés en coupe ou en rond. Kemudian, masukkan air dan susu rasa stroberi. Kemudian, masukkan air dan susu rasa stroberi. En français, puis verser l'eau et le lait aromatisé à la fraîche. Tambahkan es batu. Tambahkan es batu. En français, ajoutez les coupes de glace. Minuman sop buah siap dihidangkan. Minuman sop buah siap dihidangkan. En français, la soupe de fruits est prête à servir. Mudah bukan? Mudah bukan? En français, c'est facile, n'est-ce pas?
Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Passons maintenant divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voice.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un groupe musical Bimbo. Ce groupe musical provenant de la ville de Bandung, Java West, a été fondé aux années 1967. Le personnel se compose de Sam Bimbo, Achille Bimbo, Jaka Bimbo. Au fil du temps, leur sœur Iin Parlina a rejoint. Outre les chansons pop, Bimbo chante également les chansons religieuses. Bon serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici une chanson de Bimbo intitulée « Tuhan ». Bonne écoute.
Tuhan, segala doa.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Bimbo intitulée Tuhan. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Comme son titre, Tuhan ou Dieu, cette chanson raconte les relations entre les êtres humains et Dieu. La chanson composée par Sam Bimbo est considérée comme un rappel pour les amoureux de la musique pour rester proche de Dieu et se rappeler la vie de l'au-delà. Le groupe utilise d'abord le nom latin Trio Los Bimbos et ce nom a changé à Trio Bimbo pour sembler plus local. Initialement, Trio Bimbo est fortement influencé par la musique latine. En 1971, Iin Parlina rejoint ce groupe. Depuis ce moment, le nom de ce groupe musical a changé à Bimbo jusqu'à présent. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Bimbo intitulée Lailatul Qadar. Bonne écoute. Nafasnya angin
kalah gelap malam pada bulan suci Quran.
La chanson intitulée Laylatul Qadr raconte la nuit spéciale du Ramadan qui est appelée Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr était une nuit où le Coran aurait été révélé à Mohammed par l'ange Jibril. Beaucoup d'histoires racontent lors de nuit Laylatul Qadr. L'univers est devenu instantanément silencieux. Ceci est l'une des caractéristiques du mois de Ramadan. Les chansons religieuses de Bimbo survivent encore et sont aimées par les amateurs de musique en Indonésie à ce jour. Les paroles qui touchent le cœur et le rythme calme rendent les chansons de Bimbo d'être légendaires et ces chansons sont survécues à tout le temps. D'autres chansons Bimbo qui est assez aimée est Sajadah Panjang, adoptée de la poésie du poète indonésien Taufik Ismail et mélodie arrangée par Sam Bimbo. Cette chanson a été chantée à nouveau par Ariel Noah. La chanson Dio a été chantée à nouveau par le groupe musical Gigi et Rindu Rasul, chantée à nouveau par Vidi Aldiano. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Bimbo intitulées Sajadah Panjang et Setiap Habis Ramadan. Bonne écoute et au revoir.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buatan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang hamba tunggu.
sujud dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
Chers amis, il y en a de différentes lesures, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez de quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.